Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
On va parler de ce match, vous inquiétez pas, cher chroniqueur.
Et oui, et oui, et oui.
85e émission qui se féminise aujourd'hui avec l'équipe de l'Entente féminine Curl Auxerre AFL ASB, présente dans nos studios avec tout d'abord Mathieu Dehéro, le coach. Salut, je te laisse parler dans le micro.
Salut.
Et également Mathilde Cuminal, elle est habituée de cette émission. Allez, on a
bonjour.
Fait la dernière fois. Merci d'être là. Alors, pour présenter nos chroniqueurs, je vais commencer par Julien Gall. Salut
ouais,
Julien.
Ouais.
C'est un honneur d'être présenté en premier. Bonjour à toutes et à tous.
Quel beau match.
La victoire de l'AFL 3 à Chirac 4-3.
Ouais, exactement, avec un but.
Ouais.
C'est, avec un but. C'est ouais. Là où je voulais en venir.
Ça fait du bien.
Ouais. Alors, comment le but?
Coup de sur pénalty.
Sur pénalty. Ouais. Voilà,
que j'ai provoqué
ah,
moi-même.
T'as provoqué. Ouais. Il n'y a pas eu de. Non, c'est moi qui le tire.
Non, il n'y a pas eu de penalty gate. Non, y a... j'ai pris le ballon, je me suis pris responsable.
Parce que j'ai joué en équipe 3, je te garantis que c'est le premier qui a la balle qui tire.
Non, mais maintenant, il y a un coach sérieux. Non, le coach, il désigne avant le début du match.
Il n'y a personne qui est venu me prendre le ballon.
Et ouais.
Si j'aurais été là, tu n'aurais pas tiré.
La faute était sur lui quand même. Journée sportive à Lozère Nouvelle, Patrick Biancon, salut.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
L'OM troisième, mais on croit rêver.
Mais non, je vous le dis depuis le début qu'on est sous-coté.
Ouais. On rêvera quand on sera premier dans 15 jours. Quoi.
Alors, je ne sais pas si vous êtes sous-coté ou si c'est les autres qui sont sur-cotés, mais bon. On en parlera peut-être en fin.
Au bout d'un quart d'heure, on rigolait pas, mais bon, après, on a plus rigolé quand même, c'est vrai.
Aurélien Lacaze est là aussi. Salut Aurélien.
Bonjour à tous.
Alors, Wade à Cleveland, bon choix.
Ah oui, bon choix, oui. Oui, tout à fait. Un très bon joueur d'expérience qui a eu l'habitude de jouer avec LeBron James quand il était à Miami. Donc ils reforment leur duo, ça fait un beau Big Four à Cleveland.
Eh ouais, on va parler NBA aussi, mais pas encore, mais ça reprend dans 2 semaines, je crois, donc on va en parler la semaine prochaine. Ça. Allez, enfin, on termine par le meilleur. Chers amis, je vous invite à regarder notre petit panneau des pronostics sur le mur. Et oui, vous ne rêvez pas de pronostics de bons résultats, ils creusent l'écart grâce à Paris. Laurent Julien, salut.
Alors salut, bonjour tout le monde. Et c'est pas grâce à Paris, c'est grâce à mes dons de voyance. En fait.
Voilà.
Et mes analyses de match, parce que je vous rappellerai que j'ai aussi pronostiqué la victoire de Porto à Monaco. Mais... certes, sur le score de 1-0, mais oui. J'étais le seul quand même.
Et d'ailleurs, on dit ouais. Laurent est magique.
Voilà.
C'est plus Paris maintenant, c'est ouais. Laurent est magique.
Voilà.
Bah alors, quel début de saison. Alors, il va falloir que tu nous parles un peu de ta préparation estivale. Tu t'es quand même transformé entre la fin de saison dernière et cette nouvelle saison. Donc, Sarah, comment tu t'es préparé cet été pour repartir sur...
Il est en sur-régime, il a démarré trop fort.
Peut-être.
Non, bah, j'ai analysé mes erreurs de par le passé. Et du coup, j'en ai tiré des conséquences. Et voilà, le résultat en est là.
Ouais, bravo.
Il y a quand même des équipes qui menaient 2-0 au tout début du match et qui se sont fait remonter et qui ont perdu. Hein.
C'est vrai.
Pas plus tard qu'hier.
Je ne connais pas.
Ouais. Bon, nos invités aujourd'hui qui sont ici présents, parce qu'on va parler de cette équipe qui nous tient à cœur et qui écoute cette émission. Et nous, on les suit avec Julien qui est souvent au bord du terrain en train de faire l'arbitre de touche.
Envoyé spécial.
Alors, comment ça, après 2 victoires consécutives, vous venez avec une défaite 4-1 à Bagnoles-Pont. Coach, qu'est-ce qui s'est passé là?
Ah ben, on a fait un non-match hier. On n'était pas ni dans le jeu, ni dans l'envie. Et donc forcément, on a affronté une équipe de Bagnoles qui, elle, était concentrée, motivée. Et donc, il n'y a rien à dire. Leur victoire est méritée. À nous de nous ressaisir, de bien travailler pour la réception d'Alès dimanche, qui est un cadre de notre championnat cette saison.
Voilà, deuxième avec 9 points. Enfin, c'est quand même un beau début de championnat. 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient voir ça, y compris chez les garçons.
Oui, on est satisfait pour le moment. Donc, maintenant, à nous de rester concentrés, de continuer d'évoluer à notre niveau, d'éviter les contre-performances comme hier pour justement avoir des objectifs cette saison qui soit plus élevé que l'an dernier.
Alors, vous évoluez en honneur régional féminine, hein, c'est ça? C'était comme l'an dernier?
C'est cela, oui.
C'est la même poule, vous retrouvez les mêmes équipes, du coup, ou pas?
On retrouve deux ou trois équipes. Après, ils ont changé le format encore cette année. Donc, on est sur une première phase de championnat jusqu'en décembre, où on affronte 9 équipes. Et à partir de là, ils prendront les 3 premiers de notre poule, qui affronteront les 3 premiers de la poule qui joue en parallèle, pour la montée en DH.
Ok, ben ça tombe bien parce que vous êtes 3e.
Et c'est l'objectif?
Non, ce n'est pas l'objectif. On va prendre les matchs les uns après les autres. Nous verrons déjà ce qu'on est capable de faire face à des équipes qui évoluent à un bon niveau, comme Alès qu'on va affronter ce week-end. Et à partir de là, on verra courant novembre où on peut se situer et quels vont être vraiment nos objectifs pour la saison.
Oui, Patrick ?
Ce que tu peux signaler, c'est que cette entente AFL Badarou, pendant plusieurs années, n'a pas souhaité évoluer à ce niveau Ligue, donc était uniquement au niveau DDFL, c'est-à-dire Lozère, donc où en principe l'équipe écrasait totalement ce championnat lozérien. Et donc là, depuis quelques années, après une première expérience qui avait été un peu malheureuse, il faut le reconnaître, mais là donc depuis, c'est quoi, c'est la deuxième année où vous êtes en Ligue?
Oui. C'est cela, oui.
Voilà, donc depuis la deuxième année, elles ont fait le choix de jouer au niveau Ligue, donc bien sûr avec des équipes de niveau totalement supérieur à ce qu'elles pouvaient rencontrer en lozérien. Et donc il faut les féliciter d'avoir pris cette décision, d'avoir le courage de se mesurer à une plus forte opposition, donc au niveau régional. Et donc on se rend compte que finalement elles tirent bien leur épingle du jeu. Donc moi je leur dis chapeau, au lieu de rester vraiment entre nous en Lozère, d'avoir cette volonté de jouer au niveau supérieur et d'avoir des ambitions. Je trouve que c'est bien et chapeau au club, aux deux clubs, à l'encadrement, aux dirigeants et bien sûr aux joueuses.
Mathilde, toi qui j'imagine étais l'avant, c'est plus intéressant pour vous de jouer à ce niveau-là?
Oui, c'est beaucoup plus intéressant. Les équipes sont pas les mêmes. On voit de nouveaux visages, de nouvelles joueuses. On voit que le niveau est au-dessus et on apprend. On va apprendre déjà de notre match d'hier, notre défaite. On va apprendre à tous nos matchs. Ça change notre jeu.
L'an dernier, vous aviez terminé combien? Déjà en milieu de classement, non?
Ça oui, je pense, mais il y a eu beaucoup de forfaits.
Il y a eu beaucoup de forfaits, c'était compliqué. Ouais,
c'est tronqué, ouais. Elles étaient parties sur un championnat avec 8 ou 9 équipes, mais il y a eu 3 forfaits, donc c'était un championnat compliqué. Il y avait la plupart du temps, elles faisaient juste un match par mois. Donc
oui,
pour progresser, c'est pas facile. Tandis que là, ça a l'air un peu plus structuré avec 9 matchs jusqu'à décembre et après cette deuxième phase ou de play-off ou de play-down. On verra le classement.
Les deux premières victoires, c'était contre qui déjà?
Contre Chusclin.
Ouais.
Et Bayarg, jusqu'à là on a gagné 6-1 et Bayarg on a gagné 1-0, où c'était un peu plus dur quand même.
D'accord, Bayarg il tire toujours des longs ballons de derrière vers l'avant. Moi à l'époque quand on jouait contre Bayarg, tout le monde criait Bayarg parce que c'était la stratégie de Bayarg, c'était du football anglais dans les rows. C'était un peu étrange.
Belle expérience.
Par contre le classement, je sais pas s'il est bon parce
bien
que
sûr
du coup Chusclin a 0 point. Donc,
ils n'ont pas gagné.
Ah, c'est pas un point la défaite.
Si encore sa sauce là.
Oh non,
si ça va repartir comme l'année
dernière.
C'est
encore un point la défaite. Non mais moi je peux pas m'en sortir.
Chez les filles c'est 4-2-1.
4-2-1 ouais. comme vous alors.
Ben oui, parce que là vous avez
comme la 3. La 3 c'est 4-2-1 aussi.
Non. La 3 c'est 3-1-0.
Oula, alors j'ai d'autres classements qui sont
pas. Elles ont 9 points là. Comme elles ont 9 points là.
9 points.
Oui, elles ont 9.
Donc c'est ça, 2 x 4 et une défaite.
9 points.
Et par contre Alès à 12.
Allez, c'est à 12, oui, voilà, on rajoute 3. C'est bon, c'est juste décalé.
Ouais, voilà.
S'il te plaît. Coach, ça joue en quoi cette année chez Féminine, en quelle tactique?
Donc, on a conservé notre tactique de l'année dernière, donc on est toujours sur un 4-2-3-1.
C'est la meilleure tactique.
Le sapin marseillais.
Rudy Garcia est totalement convaincu par cette tactique.
Enfin, Rudy Garcia, il n'a pas le choix, tu vois. Il ne peut pas faire autrement. Ici, l'entente peut faire autrement. 4-2-3-1, ouais. De récupérateur
Oui, on reste sur ce schéma-là parce qu'on veut continuer à travailler et à développer du jeu, justement. On ne veut pas être une équipe de kick and rush. Donc...
Comme Bayarg. C'est ça. Combien de licenciés cette année là? Vous pouvez compter sur combien de filles pour cette année?
Donc cette saison, pour le moment, on est à 20 filles qui ont signé. On va arriver aux alentours des 25, normalement. Donc ça nous laisse un groupe suffisamment large pour pouvoir être 14 à chaque match. Après, on a le regret cette année de ne pas avoir pu maintenir une deuxième équipe. du fait de la défection de quelques filles et des difficultés à trouver du monde justement pour nous accompagner au niveau de l'encadrement. C'est-à-dire que cette année, je suis tout seul sur l'équipe pour les entraîner, pour aller sur les matchs. Donc malheureusement, on a fait ce choix de maintenir seulement une équipe en DHR.
Juste une petite question. Olwen joue toujours dans l'équipe ?
Oui, toujours.
Oui, toujours. Elle joue toujours à une touche de balle, pareil ?
Buteuse.
Non, non. Ça, c'est les équipes contre qui elle joue qui joue à une touche de balle. Allez, tu veux qu'on l'écoute maintenant, c'est ça ?
Hein ?
Il est content. Allez, on va l'écouter.
Ah, mais tu l'avais prévu, d'accord.
Eh oui, je l'avais prévu. Allez, c'est parti. Hein.
C'est bien. On a passé. Oui, c'est pas trop mal. Oui, ça va. Après, on a perdu contre une équipe qui évolue deux divisions au-dessus de nous, avec un niveau qui est quand même assez extraordinaire. Des filles qui jouent en une touche de balle, ça va.
Ne dis pas n'importe quoi, Louane, il y a Laurent à côté qui va péter un boulard.
J'ai pas entendu. Ouais.
Voilà, allez, on est revenu à cette touche de boule, ça nous a bien fait rire l'an dernier, on l'a repassé souvent. Donc attention à ce que tu dis, parce qu'on garde les sons ici,
oui,
dans cette émission.
Oui, je vois ça, je fais gaffe.
Alors j'avais une question super intéressante, tu m'as complètement coupé, mais c'est pas grave. Ouais, une équipe, 25 joueuses, donc 25 ça va pour une équipe.
Non mais c'est vrai que le coach disait, mais il y avait une deuxième équipe qui était engagée au niveau du district Lozère, et donc ils ont été obligés de faire un forfait général, bon c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce qu'il y a moins d'équipes qu'on a pu connaître il y a certaines années au niveau du district Lozère. Donc on se rend compte que c'est compliqué aussi pour les filles. Il y a une pénurie de bénévoles, ça touche toutes les associations, qu'elles soient sportives ou non sportives. Et donc on se rend compte que le secteur féminin est aussi fortement impacté, aussi bien à l'AFL Badarou, mais aussi dans les autres clubs et villages lozériens, où on a du mal à trouver des encadrants, et ce qui explique aussi qu'il y a moins d'équipes que ce qu'il y a pu y avoir il y a quelques années.
Et du coup, avec un groupe de 25 joueuses, tu arrives quand même à faire tourner, à impliquer tout le monde, à ce que tout le monde joue, ou vraiment tu fais au cas par cas ? Tu vas les matchs ?
Non, on a vraiment une rotation au niveau de l'effectif, parce qu'au niveau du foot féminin aussi, c'est compliqué d'avoir les filles disponibles toutes en même temps. Donc ce week-end, on s'est déplacé, on était 12. Le week-end prochain, pour la réception d'Alès, on va être 15. Donc, il y a quand même une rotation qui s'effectue avec des filles qui sont disponibles un week-end, pas l'autre. Donc, au final, tout le monde arrive à avoir du temps de jeu.
Alors, 25 filles, tu n'as pas tous tes postes doublés. Quel poste il te manquerait dans cette équipe pour avoir tous les postes doublés ?
Là, actuellement, il nous manque des filles en milieu de terrain, donc milieu défensif, principalement. On a un bon vivier de défenseuses. Et on a récupéré cette année les petites jeunes qui étaient U16 l'an dernier, qui ne pouvaient pas évoluer avec nous et qui cette année peuvent évoluer justement, et cela nous fait beaucoup de bien aussi.
Et gardienne aussi.
Et on a un problème sur le poste de gardienne, où on n'a qu'une seule gardienne qui travaille beaucoup le week-end aussi, donc qui a du mal à être là tous les week-ends. Après, heureusement, on va lui passer un petit coucou à Karima, qui a bien pris la relève pendant l'absence de Paulette.
Qui en a pris 4 quand même, hein.
Elle était pas là.
C'était
Paulette qui a pris.
C'était la remplaçante de la remplaçante.
Non, hier c'était la vraie gardienne.
C'était la vraie gardienne. Ah, mince. Il faut qu'elle travaille.
On lui passe le bonjour quand même.
On lui passe
salut.
Ouais. Seul pour s'occuper de cette équipe, ouais, c'est compliqué. Surtout que c'est quand même une entente AFL Badarou, on l'a dit. Et il y a pas d'autres bénévoles ni de l'AFL ni de Badarou qui peuvent venir t'aider, te donner la main sur les entraînements, sur le déplacement. Sur les terrains, sur les matchs
On peut remercier Julien qui essaie d'être là. Et après, on a toujours Michel Morin qui essaie de nous accompagner au maximum, qui est là depuis plus de 20 ans chez les filles. Donc, qui est vraiment un pilier aussi de notre groupe. Malheureusement, il a quelques difficultés en parallèle en ce moment. Donc, il a pu être là, se rendre disponible ce week-end-là, mais il va être là que ponctuellement cette année. Et au niveau des clubs, on fait les demandes, on essaye, et puis après, on voit en fonction de qui se trouve au bord du terrain le jour du match. On lance des appels et on recrute comme ça.
Et notre Mourinho, là, il ne peut pas venir donner un coup de main, là ?
Hein ? Ah non, les week-ends, c'est compliqué. Ouais.
Ah ouais, c'est compliqué. Ouais. La semaine, peut-être. Ouais. Marc, la tactique du foot et du basket, c'est pas
vraiment. Je ne pense pas que je leur serais très utile sur les entraînements. Ouais.
Et donc, vous entraînez combien de fois et où ça, sur le quoi, ça ?
Donc on a 2 séances par semaine, le mardi on s'entraîne à la Biog à Badarou, et le vendredi on s'entraîne au Cosdoge sur le synthétique.
Vous jouez pareil au fur et à mesure, ou à Badarou ou sur le Cos, ou comment ça se passe pour les matchs à domicile ?
Alors les matchs à domicile, on les joue principalement au Cosdoge.
Ok. Toi qui a vu des matchs, Julien, pour Coste, qui était sur le bord de la touche, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le niveau du foot féminin en Lozère ?
Trop gentil.
J'ai des coups de pression de part et d'autre. Ouais. Non, mais c'est sûr que pour avoir vu le niveau Lozère et le niveau DHR Ligue, c'est beaucoup plus intéressant de jouer en Ligue. Il y a des matchs quand même qui sont un peu plus accrochés. Bon, hier, j'y étais pas, mais sur le match qu'elles ont fait contre Bayard il y a 15 jours, bah, elles cherchent à jouer. C'est pas des longs ballons devant. On cherche quand même à avoir de la qualité, à essayer de repartir de derrière, passer sur les côtés. C'est assez intéressant de voir ça en DHR Occitanie. Et c'est toujours un plaisir, c'est sûr. Alors, c'est un autre football que les garçons. Hein. Je suis pas là pour comparer garçons et filles, mais c'est plaisant à voir. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je pense que le match de dimanche contre Alès, ça va être une belle affiche parce que les filles d'Alès, le groupe est principalement composé d'anciennes joueuses de Saint-Christol qui ont connu Saint-Christol qui joue en DH et qui a connu des barrages d'accession pour monter en D2 féminine. Donc c'est un groupe qui est solide. Je crois savoir qu'il y a une ancienne professionnelle de Nîmes qui joue à Alès. Il y a aussi une fille, moi, avec qui j'ai joué, qui est passée par Montpellier-Hero. Donc, il y a un groupe qui est pas mal. Donc, je pense que...
Excuse-moi.
Ouais, attends,
tu veux dire que tu joues un féminine, quoi. C'est ça.
Plus jeune. Quand jusqu'à 13 ans, les filles ont le droit de jouer avec les garçons. Pardon, je me suis mal exprimé.
Il y a de la triche, quoi.
Moi, je jouais avec une fille en poussin. C'était notre capitaine parce que c'était la meilleure aussi.
Ouais, voilà, ouais, en plus jeune. Pardon si je me suis mal exprimé. Mais, donc, voilà, je pense que ce sera un bon match à voir. Non, je suis pas au vin, Laurent. Un match sympa à voir dimanche.
Ouais, dimanche, à quelle heure ? Rappelle-nous.
À 15h.
15h au Cosdol, normalement. Ouais.
C'est quoi les points forts de cette équipe, coach ? De votre équipe ? C'est la défense, le pressing, l'attaque, les coups de pied arrêtés ?
Ou la bonne humeur ?
La bonne humeur, oui, mais la bonne humeur ne fait pas obligatoirement gagner des matchs. Ça aide, mais...
La troisième mi-temps. Ouais.
Non, notre point fort, c'est avant tout notre solidarité, notre capacité mentale à se dépasser. Et après, techniquement, on a un niveau qui est quand même plus que correct. On va mettre l'accent un peu plus sur le jeu offensif. On va dire que notre attaque est encore un petit peu plus forte. Du fait justement de ces petites jeunes dont je vous parlais, qui ont intégré notre collectif, et c'est des filles qui pratiquent le football depuis qu'elles ont 8 ans ou 12 ans. Donc elles ont quand même du ballon et... C'est là où c'est intéressant, comparé au reste de notre groupe qui est un peu plus âgé et qui pratique le football depuis beaucoup moins longtemps.
Alors Mathilde, elle se situe où là, dans cette tranche d'âge ? Parce que t'es pas âgée là, Mathilde.
Non, mais je pense que je suis une des âgées. Après, il y a Elsa Fasano, c'est notre mamie de l'équipe. Il y a la 30 ans. Mais après, oui, on a les jeunes qui ont 10 ans de moins que nous, quand même.
Une mamie de 30 ans, Laurent est en train de pleurer. c'est pas beau de nous faire ça. Ouais, attention, hein, elle pousse, elle va en prendre vos places. Va falloir se donner.
Ah, j'ai pas peur. Faut qu'elle brille, nos petites. Et oui. C'est nos bébés.
Et c'est... Oui, Julien.
Non, mais. Je parle des jeunes qui poussent. Il y a d'ailleurs une section féminine qui s'est créée au sein de l'AFL, une équipe U15. Donc ça aussi, c'est un bon point de la part du club de l'AFL dans l'objectif de structurer un peu le foot féminin. Voilà, depuis cette année, U14, U15, cette catégorie qui s'est créée, qui s'entraîne deux fois par semaine. Donc pour l'instant, les filles ne jouent pas, puisque pour la plupart, c'est leur première année de foot. Voilà, elles s'entraînent deux fois par semaine et... Tout dépend de l'avancée, de la progression des
entraînements. Voilà, on reprend les bases, c'est comme les entraînements au basket, passe, tir.
Elles seront peut-être inscrites à partir de janvier pour la deuxième phase dans Lozère. Donc,
ok.
Voilà, c'est pas mal de se structurer, de commencer le foot féminin.
Qu'est-ce qu'elles ont fait, nos championnes, là, au championnat d'Europe, les Françaises, là j'imagine que tu as suivi, Mathilde, ce championnat d'Europe où on devait être, enfin, on était l'un des favoris, on devait gagner, on a fait n'importe quoi.
Oui, j'ai regardé, mais après, qu'est-ce qui s'est passé, je peux pas dire, je suis pas non plus.
On va demander à Patrick, alors. Qu'est-ce qui s'est passé, Patrick ?
Il s'est passé ce qui se passe depuis maintenant un certain nombre de compétitions. On y croit très fort à cette équipe, et c'est vrai qu'il y a des individualités. Magistral avec certains qui sont parmi les meilleurs du monde à leur poste. On pense à la capitaine Wendy Renard, qui est quand même la joueuse emblématique de cette équipe et du foot féminin en France. Donc on y croit avant chaque compétition. Et puis après, quand arrivent les matchs couperets et ces fameux matchs pour être sur le podium et gagner des médailles, puisque elles font aussi les Jeux Olympiques, ben, il y a toujours quelque chose qui coince. Alors, est-ce que c'est un problème mental, peut-être aussi. Bon, il y a beaucoup d'entraîneurs qui se succèdent, hein, puisque là, on a encore changé d'entraîneur avec une femme donc qui maintenant a pris les rênes de l'équipe de France. Donc, il y a un palmarès.
De Clermont, c'est ouais, ça
qui, Corinne Diacre.
Corinne Diacre, un palmarès.
Excellente.
En équipe de France énorme. Et puis, donc, qui a été la première femme à entraîner des hommes au niveau professionnel. Donc, elle a un parcours vraiment monstrueux. Donc, il faut espérer que ça marche parce qu'on accueille la Coupe du Monde, hein. On l'a pas dit encore. Mais la prochaine Coupe du Monde, je crois que c'est en 2019, va être organisée par la France. Donc, on est qualifié d'office. Et donc, là, c'est l'occasion, enfin, d'arriver dans les trois premiers. Pourquoi pas empocher ce titre, qui lancerait totalement le foot féminin dans notre pays, où le nombre de licenciés est en progression. La progression est constante depuis un certain nombre d'années. Et donc, il manque, voilà, cette grande victoire ou ce grand tournoi, comme les garçons ont pu le connaître, par exemple, en 98 ou en 2000, ou même avant, du temps de Platini, ou cette fameuse demi-finale contre l'Allemagne en 82. Il manque un peu ça au football féminin, peut-être un petit problème mental. Et voilà, et moi, je pense qu'il faut aussi un staff plus stable. Il y a trop de changements au niveau du staff de cette équipe de France.
C'était qui l'entraîneur, Héro ou un truc comme ça?
Il y avait Chouavny. Chouavny. Avant, il y avait Bergerot. Avant, il y a eu Bigny. Donc voilà. Ça s'est succédé. Et donc, chaque fois qu'il y a un échec, on change de coach. Et bon, c'est pas, à mon avis, c'est pas cette
situation. Oui, il faut de la stabilité. Ouais. Vas-y, Laurent.
Ouais, c'était juste pour nuancer ce que disait Patrick. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu une belle victoire au niveau de l'équipe de France. Cependant, il y a quand même l'équipe de Lyon qui a gagné X club, fois
la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, et c'est pas rien.
Et face donc, à Paris l'an dernier, deux clubs français en finale.
Face
Ligue
à Paris
Champions,
en plus, donc ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel en France.
Mais après, il y a pas mal de joueurs.
On sait qu'à Lyon, il y a des joueurs pas que françaises, mais bon. Ouais.
Voilà. Non, mais c'est vrai, tu as raison de préciser. 2019, c'est bien, il te reste deux ans pour incorporer l'équipe de France, là, Mathilde.
Ouais, j'y crois. Hein, je croise les doigts à fond, là.
Un coach, il va falloir entraînement là, tous les soirs maintenant.
De Wendy Renard.
Et ouais. Pour le départ. Allez, merci d'être venu pour cette émission.
Merci à vous.
C'était sympa. Et on rappelle à l'Est ce dimanche contre le troisième contre le deuxième. Alors, si c'est pas un choc, hein, vous me direz ce que c'est.
Ouais. Hein,
on dirait, c'est comme si Marseille jouait contre Monaco. C'est ça, troisième contre deuxième. Mmh. Hein, Patrick? Il est content.
Oui, il aime bien entendre ça.
Ok, merci. On vous laisse y aller. Comme ça, on vous embête pas plus. Et encore une fois, merci. On vous suit. Et bien sûr, on annoncera tous vos résultats dans cette émission. À commencer par la semaine prochaine avec l'émission avec les coachs. On en reparlera enfin vers 1h moins 10 de cette émission spéciale lundi prochain. Allez, on part dans le volley, on parle de volley avec le MVL qui gagne dans la douleur à Arnes.
C'est la banlieue de Lens.
Voilà, alors c'est Arnes 3-7-2 au tie-break, il gagne 20-25, 25-20, 28-26, 17-25, 14-16 pour finir. Qu'est-ce que ça a été compliqué.
Tu m'étonnes, quand tu perds 14-12 dans le tie-break, donc qu'il y a deux balles de match contre toi, et que finalement tu arrives à t'imposer 16-14, donc si tu mets un 4-0 au final, c'est vrai que c'est une fin de match rarement vue au volley, et en plus à ce niveau, donc... Le MVL a beaucoup souffert face à une belle équipe qui est pourtant promue, hein, puisqu'ils étaient en N2 la saison dernière. Donc on se rend compte que tous les matchs vont être compliqués. Le niveau est plus élevé que l'année dernière, c'est une certitude.
Juste pour parler de cette fin de tie-break, j'ai eu écho avant l'émission que Constant, un vieux sage qu'il est, à 14-12 pour l'adversaire, a tranquillement rassuré ses joueurs. Ne vous en faites pas, on va gagner.
Il avait raison.
C'est vrai que tu as raison. J'ai croisé Constance ce matin, donc il m'a expliqué un peu le déroulement du match, et donc il me disait que il avait vraiment été surpris par la façon dont son équipe a géré cette fin de match. Et c'est vrai que il a eu l'impression, je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance, à 14-12,
Mais oui, comme tu dis, je pense que tous les joueurs étaient persuadés qu'ils allaient quand même finir par gagner. Et donc, il n'y avait aucune excitation, aucun abattement, aucun stress. Voilà, presque ça allait s'imposer. Ça coulait de source, presque. Ouais. Et donc, c'est ce qui s'est passé.
Juste une petite parenthèse. Rudy Garcia, hier, à la 15e, a dit pareil à ses joueurs.
Il a appelé Costa. Je crois qu'il a envoyé une texto à Costa.
On va gagner.
Alors après, pour revenir à ce match, donc j'ai croisé Costa et Costa m'a filé quelques stats, en particulier donc les stats de la recrue brésilienne, donc le central qu'on appelle Ninao, hein, qui c'est son surnom, hein, parce que son nom est imprononçable tellement il y en a, et donc 20 points
au contre,
11 sur 15 à l'attaque, 7 contre et 2 aïs. Et donc il me disait que depuis qu'il entraîne le MVL, il n'a pas souvenir d'avoir un contreur qui termine un match avec 7 contre. Donc un match stratosphérique de la recrue brésilienne, et donc qui s'annonce. On sait que quand il était recruté, il était meilleur contreur du championnat israélien de D1 l'année dernière. Donc vraiment, on se rend compte que vraiment au bloc, il est impressionnant.
Et alors, je crois avoir lu dans la presse que une autre bonne stat, celle de Ali Kerbois, qui a assuré une dizaine de services d'affilée pour finir le troisième set, non?
Non, le troisième set, on l'a perdu. Alors qu'on menait largement 8 à 2, je crois.
Le deuxième set, alors peut-être.
Et le troisième set, on a pris une volée, là, 9-1 d'un coup, et donc ça.
Ali a pris le service, je crois qu'on avait 15 points. C'est ça?
Il l'a surtout pris à la fin du match. 14-12 pour Arne, c'est lui qui finit. Les quatre derniers services sont à Ali et il finit par un ace.
Au tie-break.
Dans le tie-break.
Voilà.
Ouais.
Solide.
Très solide, Ali.
On se posait la question dernière du Grec qui voulait être titulaire. Alors, qui c'est qui était titulaire à ce match? Qu'est-ce qui s'est passé?
Le Grec et Paul Cooper.
Et Paul Cooper, voilà, c'est ça.
Donc, Paul Cooper a débuté le match. Il est capitaine, donc il a débuté le match. Mais le Grec a aussi fait son apparition.
D'accord. Donc, comme dernier match, finalement.
Exactement. Et donc, Costin va avoir des choix à faire, forcément. Un poste hyper stratégique. On sait que le passeur, au niveau offensif. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'il faut que le MVL progresse. Parce que quand tu perds tes deux passeurs de l'année dernière, donc tu as deux nouveaux, il te faut quasiment tout reconstruire ton jeu. Il y a un feeling à avoir avec justement les attaquants, en particulier Carlos Anthony et Loïc Alphonse, qui sont les deux attaquants. Bon, Loïc Alphonse a été monstrueux, il paraît, contre Arne. Il est en pleine bourre en ce début de saison. Mais voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et donc c'est là où, et d'ailleurs Costan il le dit chaque fois, mais il m'a encore répété, lui il commence par la défense, parce que c'est le plus compliqué, donc il travaille énormément la défense, et après petit à petit il veut se pencher sur le jeu d'attaque, et donc on va monter en puissance, et je suis d'accord avec lui, avec Costan, je pense qu'on est encore très très loin de la plénitude de cette équipe.
Patrick, juste une question, oui. L'année dernière on avait deux libéraux.
Oui.
Et cette année, là, j'ai regardé un petit peu la compo, la samedi dernier.
Tu as raison.
Et j'ai vu qu'il y avait que
Anthony Chaillou.
Anthony Chaillou.
Oui.
Si Anthony se blesse ou n'est pas là, enfin bref, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Qui prend le poste de réceptionneur?
Ça a été un choix de
libéraux, pardon.
Oui, voilà. Ça a été un choix de Costant cette année d'avoir qu'un libéraux vraiment titulaire dans l'esprit, c'est-à-dire toute la saison, il va jouer libéraux, parce qu'il sait qu'il peut compter, par exemple, sur Kevin Velay. Qui n'est pas inscrit en tant que libéraux, mais s'il arrive quelque chose à Anthony Chaillou, c'est a priori Kevin Velay qui prendra ce poste stratégique lui aussi de libéraux.
Il s'est dans sa réflexion aussi par rapport à un seul libéraux, il s'est laissé le choix d'avoir un attaquant en plus, surtout.
Voilà.
De se laisser une arme en plus offensive, et ça montre aussi toute la confiance qu'il a envers Anthony Chaillou, qui a fait encore un super match samedi. Mais voilà, c'est surtout par rapport à ça aussi. D'accord. De se laisser un attaquant en plus pour pouvoir faire des vraies oppositions aux séances, des vrais 6 contre 6.
Et on parlait de Kevin Velay qui lui aussi retrouve toutes ses qualités après une année, bien sûr, très compliquée à Calais, où mentalement ça a été hyper compliqué, hyper difficile dans ce club qui était en perdition. Et donc là, il reapprend à être dans une équipe qui gagne, avec un effectif pléthorique, des entraînements deux fois par jour, la totalité de l'effectif quasiment présent chaque fois.
À mon avis, il apprendra vite. Dans ce sens-là, c'est plus facile.
Exactement.
Allez, en tout cas, deux matchs, deux victoires, même si Mende, du coup, avec ce 3-7-2, perd des points oui, et que quatrième, avec 5 points derrière le Centre National, Fréjus et Marty qui ont 6 points, Centre National oui. Qui cartonne. Hein, pour
et prochain match, voilà. C'est quoi Caudry.
Alors, le prochain match.
Oui. Caudry. Alors, pas ce samedi, samedi oui. prochain, ce week-end, il n'y a rien. Y a... Samedi 14 oui. contre Caudry.
Week-end de repos, donc samedi 14, comme tu oui. le dis.
Ok.
Caudry bon. Qui reste sur deux défaites.
Caudry qui, voilà, qui fait ça. Partie de ces équipes qui sont. Qui sont fanny pour l'instant.
Allez, avant de faire la pause musicale, un mot sur les pré-nationales masculins qui perdent à domicile dans un match. On l'avait annoncé la semaine dernière, un match difficile contre un prétendant à la montée Gignac et qui perdent finalement seulement que 3-7-2, pareil au tie-break. Alors la une gagne au tie-break, eux le perdent au tie-break. Eh bien écoutez, ils gagneront là-bas. En attendant, ils sont troisième, bien que Gignac ait un match de moins qu'il soit derrière.
Et
Julien.
Les prochains matchs des prénats. Pareil, le 14, enlevé de rideau de la une, donc à 17h30 au Piancourt contre Roubia.
Allez, voilà. Super. Pause musicale avant de parler du hand, du rugby, du basket qui n'a pas joué. Et peut-être on parlera de ce Nice-Marseille aussi si on a le temps. Mais ça, c'est pas dit, ça dépend. Allez, pause musicale. Parti avec le hand Coupe de France 30-31, défaite contre Montélimar qui joue une division au-dessus. Laurent était au match, Julien aussi. Julien, parle-nous un peu de ce match. Un but, beau match, j'imagine. En oui. plus, 31-30, c'est un gros score.
Oui, 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 surtout un tout autre visage affiché qu'on imagine celui qui avait été affiché à Cournon lors de la fessée 43-25. Petit à petit dans les tribunes se murmurait que cette équipe de Montélimar était prenable malgré la division d'écart et donc Montélimar à un moment a mené 10-7 quelque chose comme ça il me semble et un temps mort a fait du bien, ils sont complètement revenus, ça a été très très serré, ça a été un vrai match de coupe quoi. C'était vraiment, on sentait qu'à la fin de ce match une équipe allait être éliminée, ça partait dans tous les sens, c'était des duels âpres. À la mi-temps, 18-17. Donc l'espoir était tout à fait permis encore pour cette équipe du MGC. Et en deuxième mi-temps, vraiment une équipe du MGC que j'ai trouvé vraiment formidable dans l'envie, dans la combativité, dans sa façon de jouer. Ça a été un petit peu le jeu du chat et la souris. Un coup, c'était Mende qui avait un but d'avance. Un coup, c'était Montélimar. Malheureusement, ils ont perdu Kevin Chagnard sur carton rouge après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Alors, sur une passe d'un joueur de Montélimar, par réflexe, il ferme les jambes pour pas que le ballon passe. Donc, l'arbitre siffle le pied. Et dans la seconde, il lui met un carton rouge direct. Donc, est-ce qu'il lui a parlé du pays à l'arbitre? Je sais pas.
Je pense que c'est ça, parce que d'après ce qu'on m'a dit, il y a un rapport.
Voilà, carton rouge et donc, carton bleu qui a été sorti.
Il y aura suspension, Laurent, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Il y a un rapport, il y aura suspension.
Ouais. Le carton bleu, en fait, c'est pour dire que, pour signifier directement au joueur qu'un rapport va être écrit après le match sur lui. Donc, mais malgré ça, malgré la perte de Kevin Chagnard, Mende est complètement resté dans son match. Et puis, bon, voilà, jusqu'au bout, ça a été serré. 30-30. Montélimar a ce but d'avance là, à 30 secondes de la fin. Ils ont une occasion et ça défend très très bien. Et puis un petit peu peut-être dans la précipitation de vouloir égaliser à 10 secondes de la fin, on force un peu le tir. Et bon voilà, malheureusement,
Maxime qui a la balle de l'égalisation, mais c'est vrai qu'à un peu plus de 9 mètres, un tir à rebond, le gardien, très bon gardien adverse.
Ouais. Le gardien qui avait fait un bon match jusque-là. Et...
Mais justement, vous parlez des gardiens, c'est intéressant parce que le gardien a fait 9 arrêts de Montélimar. Son remplaçant et un arrêt, ils sont à 10 arrêts. Côté Mendois, 5 arrêts pour le titulaire, 3 arrêts pour le remplaçant, donc ça fait 8. Ouais. 10 arrêts, 8 arrêts de l'autre côté, c'est pas énorme.
Ouais, surtout que, bon, Andrei, 5 arrêts, il était un petit peu moins bien que la très grosse impression qu'il avait pu laisser lors du match contre l'Oriol. Mais par contre, Gaëtan Roche a fait une bonne rentrée, même s'il n'y a pas beaucoup d'arrêts statistiquement parlant. Il a fait une bonne rentrée, notamment au moment où il a enchaîné 2 arrêts d'affilée, là où il a un peu... dégoûter les deux attaquants de Montélimar. Mais voilà, au-delà de l'élimination, je pense que pour cette équipe du MGC, il faudra montrer ce visage tous les week-ends et prouver qu'ils peuvent faire mieux que rivaliser, je pense, avec toutes les équipes de cette poule 7, cette fameuse poule 7 de N3.
Bah, là, c'était clairement l'objectif de ce match. Et on l'avait dit la semaine dernière, il tombait à point nommé ce match de Coupe de France, puisque pas de pression sur la qualification. On sait que quand on joue contre une équipe qui descend de N1 en plus, qui a N2, qui descend de N1, normalement, si tu perds, c'est pas honteux. Donc, il y avait tous les ingrédients pour se refaire un peu la santé. Et ça a été le cas. Donc, il y a pas la victoire pour un but. Bref, c'est pas grave. Mais l'équipe a retrouvé des valeurs qui avaient été un peu oubliées sur un match. On avait dit, on a tous droit à une erreur. Cette erreur, ils l'ont déjà grillée. Et là, je suis sûr qu'ils vont se reprendre ce samedi contre Avignon, Mende à 20h30, où il y aura encore une super ambiance. Et...
Ah ben, il y aura Patrick.
Il y aura du sport.
Avignon qui a fait 2 défaites en 2 matchs.
Tu vas aller voir tes amis d'Avignon, Patrick?
Peut-être, on verra le programme.
Eh oui,
on verra. Il y a Bulgarie France aussi, donc
ça va être chaud. C'est vrai, avec Adil Rami.
Eh oui.
En quatrième défenseur.
Rappelé tel le sauveur.
C'est ça.
Juste une petite question pour vous. Au niveau du carton rouge, même s'il a été donné en Coupe de France, ça a une incidence sur le championnat?
Parce que s'il y a un rapport à une suspension, ça va se répercuter sur le championnat.
Sur l'autre compétition, ok.
Oui.
Et ouais, c'est sûr que je pense que Kevin,
il a dû lui parler du pays.
Un peu énervé, parce que c'est vrai que bon, quand il ferme les jambes sur la passe, c'est vrai, ça se voit, c'est un réflexe. C'est vrai que de suite, l'arbitre qui lui sort le carton rouge et dans la foulée le carton bleu.
Ouais, c'est pas terrible. Hein.
Ça...
Non, mais.
Il doit y avoir des issues. Ouais,
Non, même pas. Une contestation. Et c'est vrai que dans le handball, c'est très sévère. À ce niveau-là, les arbitres, ils sont. Alors, j'allais dire intouchables. Bien sûr, il ne faut pas les toucher ni dans aucun sport, évidemment. Mais là, la moindre parole, bim, ça ne pardonne pas. Kevin n'a pas dit d'insanité ou autre. C'est juste qu'il a. Il a juste fait savoir qu'il n'avait pas intentionnellement touché le ballon avec son pied. Quoi.
Non, mais c'est vrai que si le carton bleu existait au football, tu en aurais pris beaucoup. Toi,
ah, ben là, c'est le schtroumpf.
Et ouais, mais ça n'existe pas. En tout cas, voilà, c'est un bon match. Et moi, je pense que c'est pas plus mal qu'on soit éliminé de la Coupe. On vise autre chose.
Oui,
voilà.
Ça va permettre qu'ils se concentrent vraiment sur le championnat. Et ça va permettre surtout de les relancer après.
Et surtout de soigner les petits bobos. Parce que là, on a vu que le capitaine Flo Coste a repris, parce qu'il n'y était pas au match à Cournon, puisqu'il avait eu une entorse au match avant Amand. Et on sent qu'il n'est pas encore tout à fait rétabli. Donc, c'est ces genres de bobos ou petits bobos. Ben, quand il y a un week-end de libre, c'est pas plus mal aussi.
C'est toujours bien, ouais. Les filles se qualifient par contre. Elles l'emportent 27-25 contre Saint-Germain-Blavozy. Bravo aux féminines.
Ouais, juste j'y étais. Juste pour dire, c'était une équipe new look puisqu'elle a été composée aux trois quarts des moins de 18 ans. Et donc les filles moins de 18 ans.
C'est vrai, je suis allé voir les photos sur Facebook et on n'a pas les joueuses qu'on a l'habitude de voir.
Donc les filles moins de 18 ont bien assuré et ont permis au club de passer un tour suivant.
D'ailleurs, on dit bravo au MGC sur les réseaux sociaux qui mettent souvent des photos, c'est assez vivant. C'est
avec
c'est très bien pour
la co-meilleure buteuse Lucie Coudert qui met 7 buts, qui est une moins de 18.
Eh ben tant mieux. Voilà. Handball également, toujours en Coupe de France en Orlozère, victoire des féminines 29-14 à Brioude et victoire des seniors garçons qui gagnent 31-22 à Mauriac. Vu que c'est la Coupe de France, est-ce qu'on peut imaginer les filles du handball Orlozère tomber contre les filles du MGC, c'est possible ?
Tout à fait, c'est possible. C'est bien, pas encore, pas encore parce que je crois que c'est encore non puisqu'elles ont joué contre
peut-être que je me trompe mais sur les seniors féminines du MGC, c'était pas la Coupe de France régionale.
Ah, je sais pas. Ah, je sais pas s'il y a une nuance.
Parce qu'il me semble avoir lu que c'était la Coupe de France régionale.
Mais en Orlozère aussi, sûrement.
Je sais pas, c'est pour ça. Non, mais c'est par rapport à la question. Par rapport à la question
elles peuvent s'affronter puisqu'elles sont toutes les deux en prénat déjà.
Ouais. Ouais, elles sont pas sur la même région parce que Orlozère a joué sur région Auvergne.
Et nous, on a bien joué contre Blavozy qui joue en Auvergne.
C'est
donc,
vrai.
Donc peut-être que oui.
Ah, parce que c'est peut-être pas
de toute façon, on saura bientôt parce que le coach de Orlozère nous écoute et va certainement faire biper mon portable.
C'est ça.
Est-ce qu'ils aimeraient se rencontrer par contre ?
Nous, on aimerait bien.
Ça serait sympa.
48 FM suivra ce match.
Ouais, exactement. On sera tous là.
Surtout Laurent.
Mais tout le monde. Tout le monde, toi aussi.
Oui.
De toute façon, tu y es, toi, déjà.
Moi, j'y suis chez les
filles. On est seul qui. Du début à la fin. Féminine, je sais pas, mais bon. Début du rugby avec le RCML pour son premier match qui s'incline 16-15 contre Pic Saint-Loup en fin de match. J'ai lu ça sur ton site, sur ta page Monde Sport, Julien. Alors, je savais pas qui jouait. J'ai pas entendu parler de ce résultat. Est-ce que quelqu'un a eu des échos de ce match ? Patrick, tu sembles me dire oui ?
Non, j'ai pas eu vraiment d'écho par rapport à ce match, mais bon, c'est vrai qu'au niveau du comité de Languedoc, il y a une médiatisation qui est vraiment réduite à son minimum. Et donc, c'est vrai qu'on met pas énormément en valeur ce championnat honneur, dont on sait qu'il y avait déjà que 9 équipes, dont une qui est déjà forfait général avant le début de la saison. Donc, ils sont plus que 8 avec 2 exams à chaque journée. Donc, c'est compliqué au niveau de la lisibilité.
Ils jouaient où, à Mende ou à...
Ils jouaient à Mende, oui. Mais si on l'avait annoncé lundi dernier, me semble.
Je crois pas.
Parce que je pense qu'au début, ils devaient jouer à l'extérieur. D'après ce que j'avais pu comprendre, ils devaient jouer à l'extérieur et ça a été inversé.
C'est pour ça, au dernier moment.
Voilà, parce que le premier match à domicile était prévu pour ce dimanche. Et d'ailleurs, je pense qu'ils reçoivent encore une fois ce dimanche, a priori, si le calendrier est respecté.
C'est pour ça qu'ils ont perdu. Ils croyaient qu'ils étaient à l'extérieur, en fait.
Très bien.
C'est pour ça.
C'est pas l'équipe 1 du Pixel ou en plus ?
Si.
Si, c'est la 1.
Ouais, oui.
Ah, d'accord. D'accord, très bien.
C'est un adversaire contre qui il joue régulièrement depuis plusieurs saisons.
Oui, et qui gagne à domicile normalement.
Ouais.
C'est ça. Ok, Auré, le basket a pas joué ce week-end ?
Non, on n'avait pas de match.
Donc match, mais c'était à forfait général, donc pas de points.
C'est ça.
Bon.
Exactement. Parfait. Donc prochain match ce vendredi, déplacement à Olemps, à côté de Rodez.
Allez, super. Football maintenant, l'attendez, ça y est, elle arrive. Une victoire de l'AFL à Blagnac, 2-0. But de Gourmal à 64e sur pénalty et d'Andaï Diaye à la 90e. Du coup, un peu d'air au classement, Aurélien.
Oui, au classement, donc la réserve de Toulouse est première avec 11 points, suivie de Perpignan-Canet, 9 points. Montpellier 2, 9 points. Fabregue 9 points. Et Mende qui se retrouve 8e maintenant avec 6 points. Et donc à seulement 3 points du podium.
Bon, très bien, on s'était dit jusqu'à présent, voilà, 3 matchs nuls, 1 défaite, ça sera valorisé quand on gagnera un match, ça y est, c'est fait. Pourquoi tu fais la tête, Patrick ?
Je ne fais pas la tête, mais je me dis qu'on l'attendait, heureusement qu'elle est arrivée, parce que sinon, c'est vrai qu'on entend tout un tas de choses, de bruit dans cette ville de Mende, passionnée de sport et passionnée de football. Donc on entend tout et son contraire parfois, mais c'est vrai que dans ce maelstrom d'annonces et de rumeurs, il y a quand même parfois et un peu de un fond de vérité. Et donc c'est vrai que les échos qui venaient en centre-ville en direction du chapitre n'étaient pas forcément très joyeux. Et donc il y avait quand même une pression, hein. Il y a une pression, après certains diront que non, mais là je peux quand même affirmer qu'il y a quand même une pression certaine sur cette équipe et sur le club en général, d'où l'importance d'avoir cette première victoire, en particulier à l'extérieur. Bon, c'était le premier club de Midi-Pyrénées qu'on affrontait aussi. Bon, je sais pas si ça a une explication ou pas, mais quand même on se rend compte que les clubs du Languedoc sont plutôt devant pour l'instant, et les clubs du Midi-Pyrénées sont un peu plus en difficulté en ce début de saison, alors qu'on aurait pu penser l'inverse, hein, que certains disaient que Midi-Pyrénées était beaucoup plus fort que Languedoc-Roussillon. Pour l'instant, à part la réserve de Toulouse, mais là c'est un cas à part, on le comprend bien, oui, puisque c'est oui. La réserve d'un club de Ligue 1, mais bon, voilà, donc heureusement qu'il y a eu cette victoire. On sait que maintenant qu'il y a le départ d'une recrue déjà, qui a déjà mis un terme à son contrat avec l'AFL.
Voilà, notre ami Rousson.
Lionel Bicon, qui venait de Rousson, qui moi j'avais vu excellent sur ce match de Canet en Roussillon.
Attends, Patrick, tu l'as appelé comment?
Bicon.
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 D'accord, parce qu'il se dirait qu'il s'appelle aussi Likong. Ah. Donc il a plusieurs noms, ce jeune homme.
Ah non, moi j'ai
Bicong, ouais. Bicong, avec un B, ouais.
Avec un B, exactement. Ouais. Lionel de son prénom, mais il a un autre nom. De la fait, il y a son prénom, oui. Bicong, puis un autre nom. Donc c'est je me souviens plus.
T'es qu'il s'appelle
mais,
Bicong.
Bon voilà, donc voilà. Il aurait
s'en fiche comment il s'appelle. Le problème c'est qu'il part.
Il est parti quoi.
Il est parti. Donc
pourquoi il est parti?
Je sais pas. Donc c'est.
S'il est excellent, pourquoi il est parti? Enfin, du moins sur un match.
Oui voilà, il y a problème. On va pas commencer à.
Non mais est-ce qu'on le sait? Non.
Officiellement, je ne le sais pas. On m'a raconté tout un tas de versions, donc je ne vais bien sûr pas répéter pour pas oui. Comporter ces rumeurs. Bon, on saura bien. Hein,
donc du coup, je vais faire comme Patrick. Voilà. Mais de toute façon, peu importe puisqu'il est parti maintenant.
Mais tout le monde a des rumeurs sauf nous, Auré. Hein. Ouais. On habite trop loin. Tu vois. Ouais, on habite du mauvais côté de Mende.
Ça ajoute quand même
dans les petits papiers, nous.
À l'ambiance un peu pesante qui quand même doit exister au sein de cet effectif de l'équipe 1. Bon, un gars il signe, et c'est quasiment la meilleure recrue. Fait sur le terrain, il fait des premiers matchs excellents, tout le monde dit c'est la meilleure recrue, et puis bon, il met un terme à son contrat et à sa licence avec l'AFL. Bon,
voilà, il joue à quel poste, lui?
Ça pose question. Milieu terrain.
Milieu terrain.
Un joueur box to box, comme on dit, un peu un Jérémy Brassac de la grande époque, c'est un peu l'impression qu'il me donnait. Mmh. Donc, pour moi, c'était un beau joueur.
D'accord, bon, mais...
mais disons. Cependant, l'AFL a quand même gagné sans lui, ce week-end.
Son match. Tout à fait.
Et c'est très bien. Ça ne veut pas dire parce qu'il n'était pas là qu'on a gagné, je ne veux pas dire ça, mais voilà,
le troisième but d'Ndiaye, qui lui aussi a été énormément critiqué par les supporters en tribune. Moi, contre Canet, j'ai entendu, mais vraiment, heureusement qu'il a pas entendu tout ce que moi j'ai entendu dans les tribunes. Et donc voilà, moi je disais aux supporters, je pense que vous êtes vraiment très sévère avec lui, parce que je pense que vraiment qu'il a des qualités. Après, il faut pas le comparer à Diallo. C'est sûr que si on le compare toujours à Diallo, ça va être compliqué.
Il a été critiqué avant même qu'il arrive.
Exactement. Et donc, je suis content qu'il marque. Je suis content qu'il marque son troisième but.
Il a pas les stats d'une recrue.
Bah oui, il sort d'une saison blanche.
Enfin, oui, trois saisons blanches.
J'ai
pas de difficulté à le dire parce que j'en ai discuté avec le coach, donc j'ai pas de souci. C'était un joueur qui est arrivé, moi quand j'ai vu son nom, j'ai vérifié sur internet, avec 3 buts les 3 dernières saisons. Donc j'étais un petit peu sceptique, ou pas dire très inquiet, et j'en ai discuté avec le coach qui a essayé de me rassurer en me disant que c'est un pari sur l'avenir, un joueur qui a longtemps été blessé, et avec des saisons tronquées, on sait très bien qu'un attaquant c'est pas évident. Donc là, pour l'instant, il n'est pas blessé. On croise
3 buts, c'est en championnat, Patrick.
On touche du bois.
Il a été blessé quand même. Il a raté un match. Puisque...
Oui, mais un match, c'est pas. Oui, ça change pas pour les stats, quoi.
Il a 3 buts en 5 matchs.
Oui,
c'est ça.
Ça va, quoi.
Ouais, c'est pas mal.
Oui, oui. Bah oui, c'est bien. Notre ami Fadil a cette fois-ci marqué son penalty.
Ah, alors comment il a tiré? Est-ce qu'il nous a fait une panenka arrêtée par le pied? Non.
J'en ai pas la moindre idée.
Ouais, moi non plus. J'ai pas vu la vidéo.
Je pense pas. Ou alors,
il a dû bourriner là. il a dû mettre un gros sac.
Ouais. Mais il nous le racontera peut-être la semaine prochaine.
Voilà, et on l'invite, il nous écoute, on l'invite la semaine prochaine, mais on va l'appeler de toute façon.
Philippe Rodier a été plus réactif que notre ami Flo Baudin de Nord-Lauzerne. Donc les infos, je vous lis son texto. Oui, on peut tomber contre Nord-Lauzerne. Et bien sûr, il me rajoute avec, on connaît Philippe, hein, c'est un combattant, non, ça nous pose aucun problème. Donc, le derby est déjà lancé. Et donc après, au niveau des seniors filles, donc il m'indique que c'est trois joueuses de moins de 18 ans qui ont intégré les seniors féminines cette année. Voilà. Et non l'inverse, comme vient de l'annoncer Laurent Julien. Non, mais il a pas mis tout ça, mais bon, voilà. Et qui ont fait, podium en 18 nattes il y a 3 ans. Voilà, 18 ans nationaux.
D'accord.
Voilà, c'est ce qui me dit.
Mais je vais les recompter.
Voilà. Donc, est-ce que tu vas être plus fort que Philippe Rodier? Alors, si tu es plus fort que le président, voilà,
ça va être grisant,
c'est énorme.
Là, je vais me griser.
Enfin, voilà pour les infos. Donc, on peut tomber contre Nord-Lauzerne, ça pose aucun problème. Et c'est 3, moins de 18, qui jouent en senior fille cette année.
Allez, merci au président et merci à toi Patrick d'en faire le relais dans cette émission. On poursuit avec le foot et la réserve de l'Eiffel qui gagne aussi 3 buts à 1 contre Metz, but de Barbu et Bourguet, un doublé de Bourguet. C'est bien, troisième match, il y avait eu 2 défaites, oui. Ça y est, première victoire. On est 8e au classement sur 12, c'est parti, la machine est lancée, tant mieux. En département d'Al 2, Le Buisson fait match nul contre Rochefort-Signard. En régional 3, Auvergne, Langogne fait match nul également contre Vic, le compte 2 buts partout, but de Maureen et Godin. En Régional 2, Auvergne, le NL perd 3 buts à 2 à Volvic. Et enfin, notre cher départemental 3 avec un grand et beau but sur pénalty de Julien Gall qui permet à l'AFL, si mon classement est bon, ce qui n'est certainement pas le cas, de revenir à la 7e place.
Ici, il a l'air bon celui-là.
Et 7e place, tu connaissais pas toi, Laurent, à l'époque, hein?
7e place,
ouais.
On connaît pas.
Ça t'est jamais arrivé.
Hein. Ouais. Allez, on va donner le classement. Je vais donner les résultats et tu vas donner le classement, Aurélien, vu que tu es habitué et que tu le fais très bien. Les résultats, le Valdonnaise gagne 3-1 contre Saint-Georges-Séverac. Le Buisson gagne 2-1 contre Montrodat. Badarou perd 1-3 contre le Masgros. Tiens, c'est une surprise, ça, le Masgros qui va gagner à Badarou.
Oui, parce que Badarou était invaincu, ils avaient gagné tous leurs matchs.
Et voilà. Le Chastel qui gagne 4-3 contre Nord-Lauzère. Chirac qui perd 3-4 contre Mende. Et Marjorie qui perd 6-1 à Marvejol. Marvejol continue, hein. Ils sont
grosse équipe.
Hein. Et Vaillant-Aubonnaise 2, Sud-Lauzère 3. Donc le classement, ça donne quoi?
Donc le classement, premier Marvejol avec 16 points. Deuxième, le Valdonnaise 14 points. Troisième, le Buisson 14. Quatrième, Badarou, 13 points. Cinquième, Sud-Lauzère. Sixième, Le Massegros. Septième, Mende. Huitième, Aumont. Neuvième, Chirac. Dixième, Le Chastel. Onzième, Saint-Georges. Douzième, Montrodat. Treizième, Margeride. Et quatorzième, Nord-Lauzère avec 4 points.
Alors, je crois que c'est la semaine dernière, on a parlé de la fameuse accession possible ou pas. On avait posé. Donc, je me suis renseigné. Et effectivement, le district du Gard a intégré dans son règlement la possibilité pour le premier de ce départemental 3, Lauzerne, de faire un barrage par match aller-retour contre un dixième donc de départemental 2 donc du Gard. Et donc si le premier Lauzérien le souhaite, c'est-à-dire que si le premier Lauzérien ne souhaite pas monter en D2, ben, il n'y aura pas de barrage. Mais si par exemple Marvejol est en tête actuellement, si Marvejol souhaite intégrer le D2 la saison prochaine, il y a la possibilité de mettre en place un barrage contre le plus mauvais dixième, puisqu'il y a 2 poules en D2 du Gard.
Ce qui est totalement dégueulasse, puisque dans les autres poules gardoises de Détroit,
oui,
ils montent automatiquement en PHB.
Match aller-retour avec les deux matchs dans le Gard.
Mais c'est quand même déjà mieux, parce que à un moment, quand la saison a débuté, mais quand les premières discussions ont démarré, il y avait zéro possibilité pour le Détroit-Lauzerne d'avoir une chance. Donc il y a eu cette sorte de compromis devant un peu le tollé général qui a vu le jour, et donc le district a décidé de mettre en place ce barrage.
Sachant que, compromis certes, mais cette D3-Lauzerne, ça devrait quand même être à la base une D1-Lauzerne.
Tout à fait, mais c'est ce que j'avais dit la fois d'avant, tu as raison.
Être le plus haut niveau lauzérien, et pas question de barrage, si le premier de ce niveau lauzérien monte en DHR. Enfin,
Moi, je suis d'accord avec Laurent et Julien, voilà, c'est pas normal. Ouais. Beaucoup de...
Ouais, j'irai pas jusqu'à dire que c'est dégueulasse.
Mais d'ailleurs, on en a parlé l'autre fois, mais on parlait de la réserve de la F1. Mais donc, il va y avoir 4 descentes cette année, parce qu'il va y avoir plus de 120 clubs de Midi-Pyrénées, alors que du côté du Languedoc-Roussillon, il n'y en a même pas 40. Quoi. Donc, c'est complètement hallucinant que sur le même niveau, il y ait 120 clubs de Midi-Pyrénées, plus même, je crois que c'est 124. Et du côté du Languedoc, il va y en avoir même pas, si, 40, il faudrait revoir les chiffres. Mais il y a un écart de 1 à 3, c'est impressionnant, entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. C'est totalement hallucinant. Mmh,
absolument. Ok, on a fini avec la page sportive lausérien, la page sportive.
On n'a pas tout à fait fini. Je l'invite de recroiser Philippe parce que j'en ai déjà au moins 4 en tête des filles moins
de 18.
Ah ouais.
Aïe.
Alors juste un petit indice. Non, les deux ailières, Lucie au centre et Erin Angol. Déjà, pour commencer, j'en ai 4. Alors. Il doit m'en manquer encore une.
Il parle de cette année, lui. Hein, il parle pas d'il y avait 20
ans. Je parle de cette année, ouais, du match de ce week-end. Enfin, c'est pas grave, on en reparlera.
Bon,
c'est pas grave, mais quand même, tu le dis.
Ouais, non, mais depuis tout à l'heure, je vous ai pas écouté. Je vous ai pas écouté sur le football.
Non, mais on va miser un repas ou quelque chose, hein. Celui qui perd, il va payer un repas ou à l'Aston Sport ou à l'équipe féminine.
On invitera Philippe parce que je sais pas s'il était venu une fois.
Non.
Donc il faut l'inviter, quoi.
Il faut l'inviter.
Mais d'abord, on le rappelle, cette émission spéciale, la semaine prochaine avec les capitaines des équipes de rugby qu'on n'a pas encore appelé, mais on aura quelqu'un, c'est sûr, du foot, du hand, du volley, du basket.
Et du rugby.
Et du rugby. On aura tous les capitaines la semaine prochaine pour une émission spéciale de midi et demi à 1h30. Toujours, on ne change pas les horaires, mais ce sera avec beaucoup d'invités et ce sera dans notre salle, le Transfo en bas de la radio. D'ailleurs, ce sera ouvert au public. Si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Les pronostics. On va faire des pronostics quand même parce que on va continuer avec Laurent et cette belle dynamique. Hein. Il faut en profiter.
Ah oui,
Laurent, faut en profiter. Il faut pas faire son niçois là. Il faut continuer à marquer des points. C'est l'équipe de France qui joue cette semaine. Donc deux matchs au programme.
Yes.
Il y a quoi, Patrick, comme
Bulgarie, match? France samedi et France Biélorussie mardi.
Ah.
Enfin, mardi, le mardi d'après.
D'après. Bon, mais c'est pas bon. On peut pas varier dessus alors. Et après, qu'est-ce qu'il y a, Julien ?
Je disais, on fait que la Bulgarie, alors. C'est pas grave,
non ? On fait que la Bulgarie, oui, on fait que la Bulgarie. Au pire, on misera la semaine prochaine sur le deuxième match.
Exactement.
Bulgarie-France à l'extérieur ?
Oui, en Bulgarie, à Sofia.
D'accord, la Bulgarie qui est combien, à peu près, on sait ou pas ?
La Bulgarie qui est quatrième, puisqu'il y a les Pays-Bas qui sont
troisième. Moi, je donne pas mes tuyaux, donc je vous répondrai pas.
Bien,
Bulgarie quatrième.
Ouais. Par contre, tu sais comment ça se passe, Laurent ? Vu que tu es en tête, c'est à toi de commencer à donner tes résultats en premier.
Bulgarie, vous rappelez comme il y a eu au match aller.
On peut tous dire comme toi.
On te donne pas nos tuyaux.
Donc, Bulgarie-France, je vais dire 0-3. Ou 3-0 pour la France.
D'accord.
Julien, t'as stressé quand j'ai dit.
2-0 pour la France.
Ok, 2-0 pour la France.
Attention, il n'y aura pas Mendy.
Oui, mais il y aura Rami. Il n'y a pas
Mendy, il n'y a pas Pogba, il n'y a pas...
Il n'y a pas Koscielny, du coup.
Il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Nasri.
Il n'y a pas Valbuena.
Il n'y a pas Djorkaeff.
Il n'y a pas Ben Arfa.
Il n'y a pas Gal.
Il n'y a pas Platini.
Tu ne peux pas tirer les pénaux en Bulgarie.
Mais attention, il n'y a pas Kostadinov non plus.
Il n'y a pas Kostadinov.
Il n'y a pas Gino, là.
Si, il y a un Kostadinov, mais c'est pas le même.
Il y a un Kostadinov.
Comment il s'appelait, celui qui joue au Rapide de Vienne avec la Ligue là? Ah, je l'adorais, lui.
Ah oui, mais d'ailleurs, il est décédé.
Ah bon?
Ah merde.
Oui. Oh non, merde.
Défenseur.
Ah oui.
Défenseur. Comment il s'appelait?
Oui, Trifanov.
Voilà. Trifanov. Voilà. Henri Trifanov, c'est pas
non,
ça?
Non, pas Henri.
Henri, je sais pas. Gori. C'est Trifanov.
Et Yergay.
Ah, je l'adorais, lui. Ah oui, il est décédé.
Oui, il a fait une crise cardiaque. Il avait 40 ans, un peu plus de 40 ans.
Ah. Il devait se droguer, je pense. Ouais. Vas-y, Auré.
Trifon Ivanov.
Trifon
Ivanov. C'est ça,
tu avais fait la côte.
Non, mais lui, il était pas né.
Son prénom.
Il était pas né. Regardez pas Julien.
J'étais pas né, mais je l'ai mis sur la voie, en tout cas.
Trifon Ivanov.
Trifanov. Il nous a dit quoi?
Trifanov.
Trifanov. Il est bon, lui.
C'est pas grave, je vous ai aidé, en tout cas.
Voilà.
Parce que bon. Pas de décision. Parce que la fichier
avant. D'ailleurs, t'as vu, Aurélien, il dit rien. Il dit pas de
décision. Il a les mêmes boîtes, là. Il stresse.
J'ai dit Trifanov, mais il y a quand même dans cette salle quelqu'un qui a dit Louboya.
On ne dira pas que c'est. Allez, Auré, combien?
3-1 pour la France.
Ouais, tout ça pour ça, pas de risque.
Et ça sera le bon score.
Ouais, ouais.
2-1 pour la France.
Ok. Allez, je vais jouer la grosse, grosse cote. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ?
Tu as dit 2-0 pour la France ?
D'accord. Ouais. Grosse cote, on va dire 0-0.
Ouh là là,
et là, on est mal.
On est en Belgique. Ouais, ouais, ouais,
0-0 et on élimine l'Italie en barrage.
En barrage, oh
boum. Allez, gros match. Oh là là. Ok, ah ouais, oh,
l'Italie
13h29.
Qui a jamais raté une compétition.
Tu fais pas les choses
ouais,
à moitié.
Ah ouais, ah, je suis un fou, moi.
Non, mais il faut espérer qu'on soit tête de série avec l'Italie pour pas les rencontrer.
Ah oui, c'est vrai qu'on doit être tête de série quand même.
Je pense, parce que
on va encore tomber contre la
tête. Tête de Jean-Michel Série, on va dire.
Voilà.
C'est ça. Oh, mais c'est 13h30, on peut pas parler de série.
Jean-Michel Série qui a eu la chance de marquer un tir contré, mais qui après s'est fait atomiser par le juge Gustavo.
Et tu te rends compte qu'est-ce qu'il aurait fait au Barcelone, ce pauvre garçon? S'il a pas le niveau déjà contre l'OM, alors ouais, au Barça.
C'est vrai.
Ah, les Marseillais. En Ligue 2, il y a 3 semaines, champion d'Europe aujourd'hui.
C'est exactement ça.
Et vive Campos. Ouais. C'est un joueur surprenant. Mais...
Ah oui, surprenant, mais c'est le terme.
Ouais. Mais efficace.
Pas capable d'aligner 3 passes. Mais
c'est bien ça qui l'a fait revenir.
Et oui.
Au moins, il a l'agnac, lui. Ah ouais, oui.
En tout cas, il faudrait voir la distance moyenne de ses buts. Je pense que ça doit pas excéder 4 mètres. Il est toujours à 4 mètres de la ligne quand il marque.
Eh ben ouais, mais ça suffit.
Ouais,
ouais ça suffit.
Ça compte pareil qu'un tir de 60 mètres. C'est même pareil.
En tout cas, en ce qui concerne le volume de jeu, il doit être vraiment au-dessus de tout le monde.
Ouais, de pas mal, ouais.
En dessous de Camara, mais au-dessus des autres.
Camara, lequel ?
Au-dessus de Montpellier.
Ah bon.
Le super remplaçant
de Camara.
90 buts, hein, ça va être le meilleur buteur de Montpellier.
Il est encore à 14 buts de Laurent Blanc, quand même. Hein. Ça va être dur d'égaler le meilleur buteur
de Montpellier. Qui était défenseur.
Qui était défenseur.
Enfin, qui était milieu à la base et qui a fini défenseur. C'est beau, ça.
84 buts, Laurent Blanc, sous les couleurs de Montpellier.
Ah, 84.
Et Camara, 70.
70.
Beau, 14 buts, c'est faisable, mais il lui faudra quand même 10 ans pour les.
Ouais,
pour
les... Ça commence à être
déjà qu'il en a 40 et quelques.
C'est le seul qui marque à Montpellier, arrête.
Ouais, puis on sait jamais, il joue que 3 minutes à chaque fois. Donc,
c'est vrai, non.
Il marque plus que Berrigo, qui a 20 ans, quoi. Bon bref, allez, on finit sur cette belle histoire de Camara. On t'aime, Camaradona. Soulé.
Camaradona.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un super instant sport avec tous les capitaines. Ciao les gars.
Allez, au revoir.
Salut.
Les Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, super marqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Avec la France entière. Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Utah Diapéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.